Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, l'interview du jour que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr ou sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous recevons Claude Verret. Bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs.
Et Justine Gabory. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici tous les deux pour nous parler du réseau qui est consacré aux réfugiés syriens ou aux réfugiés tout court.
Bien sûr, c'est l'arrivée des réfugiés en masse ces mois derniers, et particulièrement syriens, qui ont ému et qui nous ont pris dans d'une certaine émotion et qui nous ont fait réagir sur ce territoire. Il n'y a pas que ça. Bien évidemment, la Drôme accueille des réfugiés depuis longtemps, particulièrement dans son histoire. Et aussi récemment, puisqu'on a encore aujourd'hui à peu près 400 réfugiés qui, par le biais du diaconat protestant, essayent de trouver et logement et travail et papier sur le département de la Drôme. Donc la Drôme est un territoire traditionnellement d'accueil des réfugiés. Donc on n'a pas failli à cette belle histoire du département et du Diois en particulier.
Justine, qu'est-ce qui vous a poussé à agir ainsi ?
Moi aussi, je suis venue rejoindre une initiative, qui est une initiative collective, qui, en fait, a mûri, je pense, dans la réflexion dans la tête et dans la réflexion des gens, des Diois. Et donc, il y a eu cette réunion qui s'est passée lundi en 15 et qui a fait une synergie autour du thème des réfugiés. Et là, moi, j'ai pu m'intégrer, j'ai pu témoigner en partant de mon expérience de la Syrie, de mon expérience, puisque j'étais archéologue en Syrie j'ai travaillé depuis 1995, de mon expérience en tant que trésorière de l'association Life for Syria, qui travaille en solidarité avec les réfugiés syriens à l'intérieur de la Syrie, donc ceux qui sont trop pauvres pour partir et ceux qui ne peuvent pas partir, ils ne veulent plus partir. Après, de mon expérience aussi avec mes collègues syriens, collègues archéologues, étudiants en archéologie qui sont venus en France depuis 3 ans et qui essayent de reconstruire un projet de vie, toujours en attendant de rentrer en Syrie. Et c'est de ça que je voulais surtout témoigner, c'était que les gens qui partaient actuellement partaient parce que leur pays était détruit. Et n'avaient qu'une idée en tête, c'était, une fois la guerre terminée, revenir dans leur terre pour la reconstruire.
Donc cette réunion qui s'était déroulée au Palais Social avait réuni près d'une centaine de personnes.
Oui, alors nous avons été les premiers surpris de ce nombre de personnes. Aujourd'hui, j'ai rentré les derniers noms sur le listing du réseau là tout à l'heure. On a 188 personnes qui ont répondu présents au réseau d'accueil des réfugiés sur ce territoire. Et à la fois, ça m'a surpris le nombre de personnes sur une invitation très spontanée, comme ça, qu'il était venu dans une autre association, Écologie au quotidien, pour pas la nommer. Et en même temps, c'est quelque chose qui est très en lien avec ce qui s'est passé sur ce territoire depuis 100 ou 150 ans, puisqu'il suffit de sortir de ce bureau-là pour savoir que tel magasin, ce sont des Italiens qui sont arrivés fuyant le fascisme ou dans les années où on avait besoin, dans les soirées, d'énormément d'Italiens et même d'Italiennes surtout, que de croiser notre ami Serra à la porte Saint-Marcel pour savoir qu'il s'appelait Serrato et qu'il venait d'Espagne, qu'il est arrivé en 39 avec 380 autres Espagnols à la gare de Die qui ont été répartis dans le Diois, de croiser Madame de Robert pour savoir que des Juifs ont été cachés en 42 à la rue de l'Armellerie, que les Arméniens ont fait leur place sur ce territoire et qu'on a accueilli très récemment, pendant la guerre de Yougoslavie, certains réfugiés de Bosnie ou du Kosovo. Et donc, on a une tradition ici d'accueil. C'est lié aussi à l'ouverture d'esprit, je pense, de ce territoire, parce qu'on a accueilli aussi des gens qui venaient de France. Il y a beaucoup de gens qui viennent du nord de la France. On a accueilli dans les années 1914 et aussi 47, beaucoup de Lorrains, d'Alsaciens et de gens du Nord. Donc il y a une vraie tradition d'accueil. Ça a participé à la construction de ce territoire. Chaque fois que des arrivées, des migrants, alors ils ne sont pas venus tous à cause de la guerre, mais beaucoup sont venus à cause de guerre. Ils ont enrichi ce territoire, ils ont créé des entreprises, ils se sont mariés sur place, ils ont bien sûr alimenté, nourri les écoles, les services publics. Faut pas oublier par exemple que toutes les routes du territoire autour de 1880, hein, je pense que ce soit les Gorges des Gars ou que ce soit toutes les routes du Vercors ont été construites par des Italiens. Donc on a une vraie tradition de gens qui ont été vraiment efficaces sur ce territoire et on leur doit beaucoup. Donc ça m'a pas étonné in fine que ce territoire ait encore cette spontanéité d'un ces gènes.
Par rapport à ce nombre de personnes que vous avez pu réunir dans cette démarche, c'est-à-dire près de 180, ça le permettrait de pouvoir accueillir combien de personnes ?
Donc, dans la démarche, au fait, et c'est ça qui était frappant à cette réunion, c'est que chacun est venu en se demandant qu'est-ce qu'il pouvait apporter à un réseau d'asile, quelles étaient les compétences, quelles étaient les disponibilités et les ressources qu'on avait. Et actuellement, le collectif donc à l'issue de cette réunion, il y a eu un collectif d'une vingtaine de personnes qui ont pris en main une sorte d'inventaire thématique sur les logements, questions de logement, questions alimentation, questions scolarité, santé et accompagnement pour les démarches administratives. Et actuellement, donc, ce collectif fait un inventaire, regarde nos ressources. Et je pense que, clairement, il y a assez de disponibilité et d'énergie pour une famille ou deux, pour commencer. Et le terme l'accueil de famille est très important. On le sait, dans les villes, c'est les familles nombreuses qui ont le plus de problèmes pour se loger et pour survivre avec la pression économique. Dans un milieu comme Die ou le Diwa, c'est beaucoup plus facile. C'est l'intégration aussi des enfants dans une des familles nouvelles venues est un moteur à un meilleur vivre ensemble et à facilite de faire connaissance. Donc il n'y a pas encore actuellement de nombre fixé, c'est vraiment selon ce comme les Diwa se sentent de le faire. Et c'est ça qui est important dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui spontané, un mouvement volontaire. Et ça, c'est la meilleure chance de réussite pour un réseau d'accueil.
Et depuis que vous êtes dans ce mouvement, il y a des prises de contact qui s'établissent donc avec les autorités locales aussi pour faire avancer un peu les choses.
Oui, bien évidemment. La réussite de cette proposition de la population passera sans doute, et c'est une des gageurs, d'une bonne coopération avec les élus, avec les entreprises, avec les associations et avec l'administration. À la réunion dont vous parliez tout à l'heure, il y avait des élus, il y avait un maire, et il y avait un adjoint de la mairie de Die, et ils ont apporté leur soutien à l'initiative. Et on a vu après, quelques jours après, vendredi, nous avons présenté la même chose à la communauté, au conseil communautaire de la communauté de communes à Rokubo. Et l'accueil a été bienveillant aussi. Le président de la communauté de communes, Alain Matron, et Gilbert Trémollet, qui étaient présents, et quelques autres élus, comme le maire de Barsac, se sont positionnés pour dire qu'ils feraient tout pour accompagner une démarche de la population. Et ça veut bien dire que cette démarche des Diwa ne marchera que mieux s'il y a une bonne coopération entre toutes les sphères de la société. Aujourd'hui, on a des liens, bien sûr, avec le diaconat protestant, avec le CCFD qui était présent cette fameuse réunion, mais aussi avec l'Écho des Langues qui était présent, avec l'école Notre-Dame qui était présent, et donc avec la Corderie, avec Écologie au quotidien, avec Amnesty, avec la Ligue des droits de l'homme. Donc il y a tout un tas d'associations qui ont aussi, dans leur cheminement, fait ce travail d'accompagnement. Et donc ça aussi, c'est une gageure de réussite. Je parlais tout à l'heure des Espagnols qui sont arrivés en 1939, je crois que c'était en mars 1939. C'est la préfecture qui les a accueillis. La préfecture avait ouvert ses portes pour faire cuire la soupe pour 380 personnes. Ils étaient accueillis entre autres au Martouret. Le Martouret avait fourni 800 couvertures pour accueillir ces gens. Donc il y avait une vraie dynamique et associative et de l'administration. Et je pense que ça, il faut le retrouver, cette dynamique, il faut la retrouver. trouver. Je sais qu'il y a des entreprises aussi qui sont prêtes à donner un coup de pouce sur ce territoire et toutes ces associations mobilisables. Je pense que finalement, on va réussir plusieurs choses. On va peut-être réussir à accueillir une ou deux familles, mais on va aussi à faire que des associations, des institutions, des élus et des entreprises arrivent à travailler ensemble sur ce territoire en ayant fait tomber quelques murs, en ayant cassé quelques ghettos. Et là, je trouve que c'est une expérience intéressante pour nous, les Diwa.
Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait à peu près 150 personnes en attente sur le territoire de la Drôme. Donc, ces personnes-là, on envisage quoi pour elles ?
C'est une situation extrêmement difficile. L'hébergement dans la Drôme, à peu près 325 logements qui sont gérés par la CADA au niveau du département. Donc, aujourd'hui, ils sont complètement pleins. Il y a 150 personnes qui sont en attente. Et souvent, ce sont des personnes qui sont chez des amis, chez des bénévoles, voire même des fois dans des parcs publics. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, on n'a pas toutes les solutions. Par contre, sur ce territoire, on connaît aussi le nombre de logements qui sont vides parce qu'ils sont inoccupés, qui sont vides parce qu'ils sont en attente depuis longtemps. Certains sont en attente d'être détruits, d'autres d'être rénovés, d'autres... Donc, on connaît un patrimoine. Et le fait d'avoir peut-être les institutions et les élus dans ce travail de co-construction de l'accueil permettra peut-être de faire avancer et d'avoir plus facilement accès à du logement. On connaît des logements à tous qui sont murés en ce moment, peut-être, je ne présage pas de l'avenir, mais on sait qu'il y a des possibilités. On peut dire aussi ici que le VVF, qui dispose d'un certain nombre de logements qui sont propriétés de la mairie de Die, s'est positionné au niveau national pour donner un coup de pouce à l'accueil des réfugiés et que le directeur aussi de Die s'est positionné plutôt favorablement dans ce domaine. Donc il y a une conjonction de choses qui font que la réussite sera peut-être... plus facile qu'ailleurs.
J'ai remarqué à cette réunion qui s'était déroulée il y a 15 jours environ, sur la centaine de personnes, une très grande majorité était retraitée. Comment expliquer ceci ?
Je reviens à la question que vous posiez tout à l'heure. Moi, je le lis justement à l'histoire de ce territoire. Les personnes qui étaient là et qui avaient un certain âge ont connu les périodes où il a fallu accueillir des réfugiés politiques. Ce sont aussi des personnes qui ont accueilli, on s'en rappelle peut-être moins, mais il y a eu une partie de la France qui a été occupée, hein, en 42-43, et il y a une grande partie des Français qui sont descendus dans le sud de la France et qui se sont réfugiés pour des raisons diverses, particulièrement à Die ou à Dieulfi. Dieulfi a marqué l'histoire pour ça aussi, hein, en accueillant une centaine d'enfants juifs. Mais les Hautes-Alpes, Bulles-et-Baronnies, beaucoup d'endroits, ça, c'est encore gravé dans la mémoire de certains Diwa. Beaucoup de gens aussi qui étaient présents sont issus de l'immigration. Et je pense que je ne généralise pas, hein. Il y en a qui sont issus de l'immigration et qui sont devenus très réfractaires à accueillir de nouveaux arrivants. Hein. On en connaît. Mais il y a encore des gens pour qui cette démarche est imprégnée chez eux. Et ils ont encore ce cœur ouvert. Et ce sont des gens aussi, personnes âgées, qu'on retrouve souvent dans des combats pour la justice, pour les droits de l'homme, pour que dans ces pays-là avance la paix, comme le CCFD, pour la répartition des terres, pour un commerce équitable. Donc ce sont des gens qui ont une tradition de se positionner et de s'engager au niveau de la justice sociale.
Et donc, je reviens toujours avec la même question. Qu'est-ce qui fait que, mis à part qu'il y a des gens d'origine issue de la migration et d'être peut-être réfugiés eux-mêmes, pourquoi la communication n'est-elle pas passée avec une population plus jeune ? Est-ce qu'il y a encore un travail à faire là-dessus ?
Moi, j'ai trouvé que cette réunion était plutôt intergénérationnelle. Et c'est ça qui était la bonne surprise pour moi. Oui, il y avait un certain nombre de personnes donc, retraitées, mais c'est aussi... des personnes qui sont disponibles et c'est aussi des personnes qui ont du temps à donner et qui sont dans la période de la vie où on s'engage et on milite plus souvent. Mais il y avait aussi des jeunes, et par exemple les jeunes d'Écolangue, des jeunes de Die qui étaient là, qui étaient intéressés, qui étaient motivés, qui s'étaient renseignés. Et c'est ça que j'ai trouvé super, parce que je pense qu'on a tous été marqués par ces images à la télévision. On a vu... Alors, on peut les ressentir des fois, parce qu'à force que ce soit répété, en voyant aussi surtout la longueur de ces files d'attente aux frontières, on peut ressentir ça comme un envahissement. Au contraire, les gens qui étaient à cette réunion, ils ont compris ça comme un appel au secours et surtout un besoin de main tendue. J'élargis un peu les réfugiés qui partent, au fait. C'est bien des réfugiés, c'est pas des réfugiés économiques, c'est des réfugiés politiques, c'est des réfugiés de guerre. Et finalement, ils ressemblent aux gens qui étaient à cette réunion il y a une quinzaine, c'est-à-dire c'est des gens qui sont actifs, qui sont partis parce que leur pays est détruit et qui ont aussi les ressources pour se reprojeter dans une nouvelle installation en Europe ou dans le pays qui les accueillera, reconstruire quelque chose, se mettre en lien. Et je pense que c'est cette synergie qui est intéressante.
Tout à l'heure, j'entendais parler de mots comme mur, Claude Verret. Qu'est-ce que sont les murs encore aujourd'hui ?
Tu veux dire les murs qui se construisent sur la planète et qui, de partout, un peu, qui...
Je vais rester au niveau du territoire, par exemple.
Dans ce territoire, depuis une trentaine d'années, peut-être un peu plus, il y a des difficultés, mais ça, c'est pas un mystère. Pour même la radio doit en connaître ses propres murs. Il y a des difficultés à communiquer entre les associations, entre les partis politiques, entre les élus et la population, entre la population et certains festivals de spectacles, etc. etc. On n'a pas vécu depuis les grands départs de notre ami André Pitt et Jacques Coutureau, on n'a pas vécu l'embellie culturelle et l'embellie sociale dont un territoire comme celui-ci, avec sa richesse, devrait s'enorgueillir. Et donc, je pense que cette réunion-là est arrivée à casser ses a priori, ses murs et ses... Oui, c'est ce côté un peu, on construit soi-même dans son petit coin sa propre vision des choses. Il y avait besoin d'un... Alors, je ne sais pas si la réussite sera au rendez-vous à terme, mais en tout cas, il y avait besoin d'un événement fédérateur, il y avait besoin d'un événement rassembleur qui rassemble toutes les sensibilités. Et là, on a vu que... On a connu dans notre histoire le conflit entre les associations et la municipalité, il n'y a pas si longtemps que ça, entre la communauté de communes et certaines associations, entre certaines mairies et la mairie de Die. Enfin, je pourrais lister les conflits latents sur ce territoire depuis une trentaine d'années. Et il me semble que là, sur un sujet comme celui-là, qui nous a tous touchés, on avait enfin envie de faire quelque chose ensemble. Moi, il me semble qu'on amorce sur ce territoire quelque chose qui est de l'ordre du faire ensemble. Peut-être parce que dans un contexte plus difficile où tout est dur aujourd'hui au niveau économique, au niveau financier, il va falloir se serrer les coudes. Et comme disait Martin Luther King, si on veut vivre... nous devrons vivre comme des frères et sinon nous allons mourir comme des idiots. Et on est un peu à ce virage-là, je pense, sur ce territoire. On est obligé de se serrer les coudes pour survivre tous.
Qu'est-ce qui est encore demandé, là, à l'heure actuelle, comme moyen pour accueillir les réfugiés ici, dans le Diwa ?
Donc ça, c'est le travail du collectif qui s'est constitué il y a à peine 10 jours. Hein, donc... C'est cet inventaire, c'est le travail du collectif et il y a samedi, ce soir, à l'espace social à 19h30, une nouvelle réunion justement pour finaliser cette première étape, c'est-à-dire nos ressources, ce qui nous manque et les personnes à contacter encore pour trouver des solutions. Et surtout, je pense que dans cette démarche, dans le contexte, avec tout ce qu'on voit sur les guerres et la Syrie dans le monde, les guerres, bon, je pense toujours à la Syrie parce que c'est le pays qui est proche de mon cœur, mais je pense que tout le monde a senti un sentiment d'impuissance, qu'on soit comme moi, citoyen lambda, ou qu'on soit élu, qu'on soit responsable d'une administration, responsable d'une collectivité. Et que, voilà, dans cette démarche, il ne faut peut-être pas attendre que ce soit le gens du collectif qui vous sollicite. Et bien, il faut peut-être y penser qu'on est libre d'y aller en tant que soutien de la dignité humaine dans le monde, en tant que aussi... ce qu'on peut apporter par son expérience professionnelle, ce qu'on peut apporter juste par son expérience humaine, je veux dire, accueillir des familles, c'est aussi penser à inviter la famille quand on sort faire un pique-nique, quand on fait une fête, penser à échanger des recettes de cuisine, penser à faire découvrir la richesse d'un territoire, comment les coins qu'on aime bien, inviter, vous savez, dans le Diwa, chez nous, ça marche comme ça, on fait ceci, c'est ça. Et donc, ce qui était... vraiment intéressant à cette réunion et pour moi qui m'a apporté beaucoup d'espoir, c'était que les gens étaient venus avec tout simplement ce qu'ils avaient à partager. Et voilà, donc c'est le message que j'ai envie de dire, c'est n'attendez pas qu'on vous contacte, vous qui êtes dans des associations, qui êtes directeur d'un collectif, d'un groupement élu. N'attendez pas que le collectif vous contacte. Venez soit sur le blog du collectif, dont l'adresse sera diffusée dans la presse. Venez soit aux réunions, contactez quelqu'un que vous connaissez qui a participé à ces réunions. Et juste dites, ben, moi, ma ressource, c'est ça. Je peux faire ci, je peux faire ça. Je ne veux pas faire ci. Mais je me sens impliquée parce que j'en ai marre de regarder ces images à la télé de gens qui sont sous des tentes, qui ont mis quelquefois 3 mois pour venir du camp de réfugiés de Za'atari en Jordanie ou de Turquie, qui sont passés, qui ont dû payer 3 000 euros à un premier passeur et puis 5 000 à un autre et puis ceci, de l'argent qui aurait pu être utilisé vraiment pour réinvestir dans une nouvelle vie, et des gens qui y sont venus, qui ont fait tous ces kilomètres, qui arrivent épuisés psychologiquement. Vraiment meurtri. Et voilà, j'en ai marre de voir qu'ils sont mal accueillis ou ils se sentent mal accueillis dans notre pays parce que ben, la France, c'est pas ça. La France, c'est pas des tentes. C'est un pays organisé. En Syrie, c'est la guerre. On a des villages qui se font bombarder. Les Syriens, ils pensent encore collectif, c'est-à-dire vous arrivez à leur faire passer le financement pour organiser la distribution de paniers repas, ils le font. Ils le font alors que c'est la guerre, ils le font alors que les prix montent, ils le font alors qu'il faut chercher pendant des heures le carburant pour permettre de distribuer ça à des familles très éloignées. Ils le font alors qu'il y a toujours des menaces d'arrestation, des menaces politiques, de suspicion, etc. Et nous, ben nous on est dans un pays organisé, un pays riche, économiquement, créatif, culturellement, on est là. Moi, j'aimerais qu'on ne soit pas toujours les plus pauvres qui partagent entre eux, parce que finalement, ils ont peu à partager, c'est plus facile. C'est aussi ceux qui ont la chance de vivre dans un cadre de vie magnifique, d'être au sein de leur famille aimante, au sein de leur réseau d'amis, d'amitié et de tout ce qui nous incite à ouvrir les yeux et à aller plus loin et à être content tous les matins. Voilà, donc c'est ça qu'on a à partager. Et c'est, je le répète, des familles qui viennent là pour se reconstruire, pour construire un projet, pour scolariser des enfants qui n'ont pas été à l'école depuis 3 ans. Quand vous êtes parent, vous dire ça fait 2 ans et demi qu'on est dans un camp de réfugiés, avant on était dans le village qui était bombardé, mes gamins ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas eu de cours sérieux. On comprend qu'on ait envie d'emmener ces enfants en prenant des risques épouvantables pour pouvoir leur donner une chance. Quand on est jeune, on prévoit de faire des études, on prévoit d'apprendre un métier. Vous êtes dans un camp, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous avez commencé une année de formation professionnelle, vous voulez la poursuivre quelque part. Et ce n'est pas dans un camp en Turquie, au Liban ou en Jordanie que vous allez pouvoir le faire. Donc voilà, c'est ça. Ce partage-là, et surtout l'initiative. Ne pas attendre qu'on vienne vous chercher, parce qu'au fait, juste en tant qu'humain, on a envie de faire quelque chose, on n'a plus envie d'être impuissant. Il y a tellement de sujets où on nous dit « Ah, mais on ne peut rien y faire ». Ben là, il y a un sujet où tout le monde peut y faire sa part, hein, juste sa petite part. On ne va pas accueillir 4 millions des réfugiés syriens. On va juste accueillir la part que nos ressources nous permettent d'accueillir.
Oui, parce que on ne va pas parler chiffres, hein, et on peut quand même parler des disparités d'accueil, des moyens d'accueil en fonction des pays d'Europe. On peut parler pour l'Allemagne, qui est la plus touchée, puisque je crois qu'ils prévoient 800 000 réfugiés dans leur pays. La France est beaucoup plus basse, hein, à ce niveau-là, je crois. J'ai entendu parler de 20 000.
Oui, oui. Non, les chiffres évolueront selon le contexte et les négociations diplomatiques. Bon, juste en Allemagne, il faut savoir. Donc, moi, j'ai eu un message d'une amie qui vient de passer ses vacances cet été dans un village en Allemagne. Et ben, la mairie, elle a reçu 2 postes du Länder pour s'occuper de l'accueil des réfugiés, pour le financement. Elle a reçu un financement pour les cours de langue, elle a reçu un financement pour le suivi psychologique. Et pour tout ce qu'il faut, cours d'initiation culturelle, adultes et enfants. Voilà. Donc, c'est aussi un pays qui a une autre histoire, qui a une autre histoire démographique aussi, une autre histoire de réunion Est-Ouest, d'accueil aussi des Turcs et des Kurdes depuis de longues années. C'est un peu différent. Bon, alors pour la France, je ne sais pas. Je pense que peut-être nos hommes politiques nous sous-estiment. On est peut-être prêts à beaucoup plus de choses qu'ils ne croient. je ne sais pas.
Pour les auditeurs qui auraient des initiatives à proposer, comment vous contactez ?
Alors, le plus simple, c'est d'envoyer un mail, parce qu'on a le temps, de développer un peu ses propositions et ses ressources, de nous envoyer un mail à réseau-diwa-accueil@gmail.com. On a déjà une trentaine de personnes qui ont envoyé des mails, qui ont envoyé une lettre en disant ben, « moi, je dispose d'un appartement, moi, je veux bien participer à faire un pique-nique quand ils seront là, moi, je veux bien faire de l'accompagnement scolaire ou travailler autour des langues ». Donc, c'est le meilleur moyen. Après, on a un site maintenant, hein, dont on trouvera le libellé exactement dans la presse, réseau accueil d'IWA WordPress, mais là, ça... on le trouve assez vite. Et puis, vous pouvez faire le numéro de téléphone actuel pour l'instant, parce qu'on risque de changer ce soir, 04 75 21 00 56. Voilà pour retrouver les contacts, mais aussi de venir dans les réunions, puisqu'il y a la deuxième réunion. La troisième réunion, je peux le dire, puisque le Framadat est arrivé presque à son terme, elle aura lieu le 19. Le 19 octobre, au même endroit, au Palais Social. Donc, tout ce travail-là est en train de se faire, est en train d'être élaboré par tout le monde. Ce soir, il y aura sûrement un pas de fait. Il y aura peut-être derrière des rencontres avec des organismes, des associations, des élus. Peut-être qu'on va bouger. C'est toute la population qui est en train, en ce moment même, de penser, de réfléchir, d'imaginer, de construire le futur qui va se dessiner au niveau de l'accueil de réfugiés.
Je voudrais rajouter aussi que, bon, et ça, il faut venir dans les réunions ou les gens qui sont dans les réunions pour en témoigner, c'est un projet extrêmement structuré. Je veux dire, accueillir, chacun le sait, hein, accueillir quelqu'un, c'est une responsabilité, c'est une garantie éthique, surtout après ce que ces personnes ont travaillé. Et donc, c'est extrêmement structuré. C'est pour ça qu'on ne peut pas proposer là tout de suite en disant on va faire ci, on va faire ça. Parce que, voilà, nous, on veut que les personnes qui viennent puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Les meilleures dans le sens où nous, on a pris nos responsabilités, on a organisé les choses et on n'est pas du tout sur du bon sentiment, on est sur quelque chose de durable, on est sur quelque chose de consensuel, sans discrimination politique ou confessionnelle. On est sur quelque chose, un accueil qui est réfléchi et responsable.
Ce qui veut dire aussi qu'on n'évacue pas du tout de la réflexion. Notre responsabilité sur ce qui se passe dans ces pays-là. Hein. Ce n'est pas un accueil candide ou une mode qui serait de bon aloi en ce moment. Ce travail a été nourri pendant des années d'une réflexion sur notre position, comment nous alimentons les guerres, comment nous avons fait tomber certains régimes, peut-être pas idéaux, mais en tout cas qui ont provoqué la chute, a provoqué le chaos. Nous sommes en guerre aussi dans une multitude d'endroits, y compris le Mali. Et donc, il ne faut pas s'étonner que nous ayons dans les années qui viennent des réfugiés et des Maliens. Donc, nous sommes pour une grande part, et surtout par le biais de la guerre économique, nous cassons régulièrement les marchés des matières premières, nous cassons régulièrement le marché des denrées alimentaires. Nous accaparons régulièrement les terres pour l'alimentation de notre bétail en Afrique. Et donc, nous déstructurons les paysanneries du Sud. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'en retour, nous ayons une partie qui sont des migrants économiques, mais là où nous causons des guerres, des réfugiés politiques et des réfugiés de guerre. Donc, ce n'est pas une vision candide, c'est aussi une responsabilité face à un monde que nous sommes en train de construire. Et moi, j'ai l'impression que les personnes qui viendront sur ce territoire seront des éléments pour construire une paix dans leur pays et peut-être de repartir avec l'idée aussi que finalement, un pays qui aura été accueillant à un moment où cette force d'hospitalité aura peut-être pu triompher, sera un pays où nous maintiendrons des relations comme on le fait par le biais du jumelage. Il ne faut pas oublier que dit le jumelage s'est reconstruit avec l'Allemagne. Par le biais de l'association du jumelage, où ont participé des anciens déportés de Die, par exemple, ce qui était en 1945, 46, 47, est quand même assez incroyable. Hein. Et donc, je pense que là, nous sommes en train de construire de la fraternité mondiale, nous sommes en train de construire des solidarités et peut-être de la paix durable dans ce pays et dans ce monde.
Je rappelle quand même pour les auditeurs que ce qu'on doit proposer à ces réfugiés, c'est surtout de la stabilité.
Oui, en effet, c'est la stabilité de logement, stabilité de scolarisation, c'est-à-dire quand on parle de responsabilité et de structuration, c'est-à-dire c'est pas un accueil 6 mois, 3 mois, 3 mois ici, une semaine là, une semaine chez là. C'est vraiment, posez-vous, réfléchissez. Bon, on sait comment ça marche dans un traumatisme, hein, je généralise pas, mais parce qu'il y a des rythmes qui sont différents. Vous avez subi une très grande épreuve, un traumatisme, pendant les premiers mois, les premières années où vous êtes sauvé, vous en êtes sorti, ben, vous foncez, vous vous intégrez, et puis après, vous avez besoin justement de ce mois pour faire le deuil et pour évacuer les choses graves dont vous avez été témoin. Après, une fois que vous avez fait passer ces deux étapes, eh bien, il y a l'étape où vous pouvez revivre. Et puis, ce que j'espère vraiment pour ces familles, c'est la quatrième étape, quand ils pourront rentrer chez eux.
Justine et Claude, je vous remercie d'être venus. Et donc, je rappelle quand même cette date du 19 octobre au Palais Social. Une réunion, donc un compte-rendu
Il y aura un compte-rendu et puis la réunion. Nous continuerons le travail tous ensemble et nous avancerons encore tous à Sainte sur ces propositions et sur peut-être de nouvelles donnes que nous aurons eues avec des associations plus largement et puis peut-être des collectivités qui auront mis à disposition quelque chose. Tout ça s'élabore, hein, je peux pas en dire plus puisque nous le construisons ensemble.
Est-ce que vous ferez pas publier des articles sur ce sujet, soit au Dauphiné Libéré, pour ne pas le nommer, ou le journal du Diwa, pour que le public puisse se tenir informé des éventuelles réunions, ou voire même de demandes expresses?
Oui, ça va venir tout doucement. Pour l'instant, ça se co-construit. Il va y avoir un numéro du journal du Diwa qui va parler comment, historiquement, nous avons accueilli plus ou moins bien des réfugiés depuis une centaine d'années. Donc, il va y avoir un numéro qui est en train d'être préparé par Sylvaine Laborde là-dessus. Donc, ça nous permettra de revisiter notre histoire. Et puis, nous allons publier aussi des comptes rendus au fur et à mesure des réunions, bien évidemment. Merci.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Merci à la radio. Au revoir aux auditeurs.